Oh, bonjour à tous, vous êtes très nombreux, je suis content. Non, on n'applaudissait pas. Peut-être à la fin, si ça vaut le coup, on verra, hein. C'est pas sûr. Je complète juste en quelques mots cet itinéraire. Effectivement, si aujourd'hui je suis prêtre, je n'ai pas toujours été, et chrétien non plus. Et comme cela a été dit au départ, vous savez, je fais partie de ces gens qui se posaient des questions quand ils étaient petits, et pas de réponse, on n'apportait pas de réponse. Hein. Moi, ma première question, c'était un jour, je devais avoir 3 ans, dans chez moi, il y avait une sorte de potiche, vous savez, un vase chinois. Je l'avais regardé, puis je me suis demandé, mais pourquoi je ne suis pas un vase? Qui est-ce qui décide qu'on est un homme, une femme, un animal, un homme, etc. Alors je suis allé voir ma maman et je lui ai demandé pourquoi je ne suis pas une potiche. Évidemment, elle n'a pas su me répondre, et c'est parce que je n'avais pas de réponse que j'ai fait mes recherches, et comme on ne m'a pas parlé de Dieu, eh ben, j'ai cherché par moi-même. Alors je ne vais pas refaire un peu, parce que ça serait un peu long, tout l'itinéraire, mais pour vous dire un peu, vous savez, on va toujours, et dans ce qu'on va aborder aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toujours une progression. C'est-à-dire qu'au départ, c'était avec un simple pendule, où j'essaie de retrouver des objets perdus, et puis ensuite, je suis passé à 13 ans au spiritisme avec un copain de classe. Du spiritisme, je suis passé à la magie, puis à la magie noire, et finalement, j'ai fait des études de psychologie. Pendant mes études, j'étais fasciné par Lucifer, et j'ai été luciférien également. Conversion, rassurez-vous. Et c'est un petit peu suite finalement à tout cela, quand je suis allé voir mon évêque en disant, voilà, je veux devenir prêtre, il m'a dit, j'étais encore un jeune homme, il dit, racontez-moi, alors vous êtes d'une famille croyante? Je lui ai dit, pas vraiment. Alors je lui ai raconté toute mon histoire. Alors je voyais mon évêque, c'était Monseigneur Raffin, il s'était un peu enfoncé dans son fauteuil. En me disant, bon, mais il m'avait dit, alors son prédécesseur me l'avait déjà dit, puis lui-même, ben ça peut être important aujourd'hui de connaître un peu ce sujet, parce que beaucoup de gens sont à la recherche, font des sortes de recherches spirituelles, sens de la vie, et finalement sont touchés ou intéressés, enfin attirés, on va dire, par tout ce qui est occultisme, pratique occulte, etc. Ce que j'ignorais, donc j'ai fait une formation, j'ai fait mes études à Rome, et je me suis spécialisé dans l'histoire des religions, et plus spécialement dans ces questions-là, et puis ça fait plus de 30 ans que je reçois énormément de gens, et plus que jamais maintenant, en particulier depuis la crise de la Covid, de gens qui ont touché à certaines choses, qui sentent qu'ils sont pas très, voilà, ça leur pose des questions, ou qui veulent avoir des renseignements simplement, et c'est presque, presque au quotidien, plusieurs fois par semaine, que je rencontre ces gens-là. Donc ce que je vais vous dire, c'est à la fois, si vous voulez, ça part d'une expérience personnelle, hein, bien sûr, mais aussi un petit peu de réflexion et de recherche que je mène depuis à peu près 30 ans. Alors nous allons commencer. La première question que je voudrais poser, c'est notre époque est-elle vraiment rationnelle ? Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, on était persuadé que la science, la raison, allait résoudre toutes les questions de superstition, de croyance et même de religion, et que nous allions nous débarrasser finalement de l'irrationnel. Et pourtant, il faut bien le dire, nous assistons en ce début de 21e siècle à ce qu'on appelle le retour de la mentalité magique. La voyance, l'astrologie, la divination, tous ces domaines-là et bien d'autres que nous allons voir maintenant sont vraiment en forte augmentation, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Et vous n'avez pas été sans remarquer qu'il y a un développement aujourd'hui de boutiques spécialisées, de librairies ésotériques. S'il y a les librairies chrétiennes qui ferment, je peux vous dire, il y a une augmentation, un volume de vente des livres sur l'ésotérisme énorme, mais aussi des salons de la magie, etc. etc. Il y a un siècle, il y a un auteur anglais qui s'appelle Chesterton, c'était exactement 1923, donc un siècle, qui disait cette phrase que je trouve vraiment prophétique. Le malheur de nos contemporains n'est pas de croire à rien, le malheur est de croire à tout, et à n'importe quoi, et à n'importe qui. Il y a un siècle. Je peux vous dire, c'est plus que jamais d'actualité. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, on va le voir en plusieurs points. D'abord, voir un peu la situation. Il y a un regain d'intérêt aujourd'hui pour l'occultisme. Nous verrons ensuite les pratiques occultes les plus en vogue aujourd'hui, quelques-unes hein, bien sûr. Et après, on va essayer d'analyser le phénomène. Hein. Comment on passe de la religion à ce qu'on appelle la spiritualité? Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot spiritualité? Et enfin, la foi chrétienne et l'ésotérisme, avoir quelques repères dans ce monde qui finalement est autour de nous et qu'on ne maîtrise pas toujours très bien ou qu'on ne comprend pas toujours très bien. Alors d'abord, un regain d'intérêt pour l'occultisme. Là, vous voyez, j'ai mis l'Express, hein, c'est de juillet de cette année. Il a fait un numéro spécial, mais beaucoup de revues s'en inquiètent aujourd'hui. Il y a vraiment un essor inquiétant. Alors, quelques chiffres, je ne vais pas vous noyer, hein, rassurez-vous. Alors, ce sont des chiffres officiels de l'IFOP. Hein, l'un date de décembre 2020 et l'autre de mars 2023. Donc, c'est assez récent. 59% des Français adhèrent au moins à une croyance occulte. Astrologie, cartomancie, voyance, sorcellerie, etc. Presque 6 Français sur 10. 6 Français sur 10. Un Français sur 4 consulte des voyants. Alors, quand je dis voyants, c'est les médiums, les astrologues, les cartomanciens, vous voyez, tout ce genre de personnes. Un Français sur 4. Ce sont les chiffres officiels, hein, je vous rappelle. Il y a une évolution très forte de la croyance dans ce qu'on appelle les parasciences, souvent, depuis l'an 2000. Vous voyez, par exemple, l'astrologie. 32% des personnes en l'an 2000 croyaient à l'astrologie. Maintenant, ils sont 41%, une augmentation de 9%. Alors là, j'ai mis ça parce que même quand je faisais l'ésotérisme, j'avais un peu de mal à croire que notre destin était écrit dans les lignes de la main. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Et pourtant, 29% croient finalement que notre vie est écrite, qu'on peut lire notre avenir dans les lignes de la main, alors qu'il n'était que 17% en 2000. 26% à la voyance, à la numérologie, donc là aussi une augmentation. Et la cartomancie. La cartomancie, vous voyez, c'est dire l'avenir avec les cartes, hein, le tarot. Voilà. Là aussi, une augmentation de 8%. Alors, pour avoir une petite idée, également en France, il y a 100 000 astrologues, voyants et marabouts. Attention, ce sont les chiffres. Alors, ce n'est pas des chiffres très précis, mais c'est des estimations, celles que l'État reconnaît, puisque ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui payent des impôts. Hein. Donc, vous pouvez largement multiplier par 3 le nombre de voyants, etc. Ceux qui disent, hein, voyez chez eux, qui tirent les cartes, etc. Largement par 3. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a 8 fois plus de médiums que de prêtres. Vous avez beaucoup plus de chances. Vous voyez, quand on met en perspective, vous avez 8 fois plus de chances de tomber sur un voyant que sur un prêtre en France. Ce qui d'ailleurs, je le dis en parenthèse, hein, au 19e siècle encore, lorsqu'on avait un problème personnel, on allait voir, ou un souci, on allait voir le prêtre, dans la confession. Au 20e siècle, on allait voir le psychiatre ou le psychanalyste. Et au 21e siècle, on va voir le voyant. Vous voyez l'évolution. Hein. Et puis aussi, alors ça c'est peut-être plus étonnant, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de médiums que de psychologues et de psychiatres. Alors que c'est une profession qui, depuis 2018, est en pleine expansion. Eh bien, il y a quand même 2 fois plus de gens qui préfèrent finalement se confier à des voyants qu'à des gens professionnels, à des professionnels. Et le chiffre, moi, qui me fait le plus peur, c'est que ce sont les jeunes. Ce chiffre, donc, qui est officiel, 70%, donc 7 jeunes sur 10, de 18-24 ans, sont attirés par l'ésotérisme. Hein, 7 jeunes sur 10. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce qui se développe ces dernières années? Alors là, c'est plus récent, parce qu'évidemment, je laisse de côté les choses un peu traditionnelles, les voyants, les astrologues. Hein. Excusez-moi. Qu'est-ce qui est le plus en vogue aujourd'hui? Alors la première chose, il y a un retour de la sorcellerie et de la figure de la sorcière. Regardez, c'est des photos que j'ai prises dans une librairie. Bon, c'était un rayon Fnac, hein, je ne fais pas de publicité. Hein, voilà. Et regardez sous le titre de « Sciences humaines ». Sciences humaines. Sciences humaines, c'est la psychologie, la philologie. C'est des domaines qu'on en... Eh bien, on met maintenant sous « Sciences humaines » l'astrologie, le chamanisme, l'apprenti sorcière, etc. Vous voyez l'évolution? Il y a quelque temps, c'était dans le religieux, c'était à spiritualité, enfin, c'était ésotérisme au début, puis après spiritualité, maintenant, c'est même considéré comme des sciences humaines. Et donc, pourquoi ? Eh bien, il y a énormément, si vous allez dans des librairies, vous verrez, hein, vous pouvez en faire l'expérience, énormément de livres aujourd'hui, d'ouvrages, parlent de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie ne fait plus peur. Ce n'est plus considéré comme l'œuvre du diable ou de force obscure, et il y a un dépassement du bien et du mal, vous voyez ? Quand je rencontre, hein, je rencontre un certain nombre de gens, de sorcières en particulier, qui me disent « la magie blanche », vous voyez ce qu'on appelait la magie blanche, une magie positive, ou la magie noire, négative, qui faisait peur jusque-là, hein, qui était le propre de la sorcellerie, finalement ce ne sont que des simples polarités, un peu comme le plus et le moins, le yin et le yang, si vous voulez, qu'on doit mettre en équilibre. Donc on a dépassé, si vous voulez, la notion du bien et du mal, de ce qui fait peur, Le but, finalement, et la plupart de ceux que je rencontre, un jour ils font de la magie blanche, un jour de la magie noire, l'essentiel, c'est de mettre tout ça en harmonie et en équilibre. Alors il y a aussi une grosse évolution de la figure de la sorcière. Vous savez que la sorcière est passée par une vision un peu archétypale, la vieille femme un peu marginale, inquiétante, etc. Et aujourd'hui, la figure, chez les jeunes en particulier, c'est la fameuse... Hermione Granger, vous savez, dans Harry Potter. Et là, l'image de la sorcière, c'est plus la vieille dame avec sa verrue sur le nez, ça c'est fini. Mais c'est une jeune fille pétillante, intelligente, bien intégrée dans la société. Et il faut certainement qu'un jour, on fasse une étude, elle n'a pas été faite encore, sur l'impact qu'a pu avoir Harry Potter. Je ne dis pas que c'est bien que c'est mal, hein. C'est un fait sociologique, c'est tout. Vous savez, c'est un phénomène mondial, hein, 450 millions d'exemplaires dans 200 pays, lus par énormément de jeunes. Alors la question c'est de savoir quel impact Harry Potter a-t-il pu avoir sur les croyances des jeunes. Et déjà une philosophe, hein, disait « Harry Potter a pu servir de guide spirituel, comportemental, dont la clé, comme dans toutes les œuvres marquantes, l'identification. » Et on voit bien qu'il y a une très grande identification en particulier chez les jeunes filles, parce que c'est un phénomène qui touche plus les filles que les garçons, qui sont finalement, qui font une sorte d'identification avec les personnages, et peut-être plus encore qu'Harry Potter, Hermione Granger. Bon. Alors, qui est la nouvelle sorcière en 2023, qui se disent sorcières, dont certaines font profession? Eh bien, c'est une jeune femme, 14-30 ans, vous voyez, branchée, active, engagée socialement, présente dans les réseaux sociaux. Et où les trouve-t-on essentiellement sur ces réseaux sociaux? Je pense à TikTok en particulier, qui est vraiment une porte d'entrée. Hein, vous connaissez, hein, un réseau social très prisé des jeunes. Hein. Facebook, c'est un peu plus pour les gens âgés, hein, on trouve moins. C'est les gens de mon âge plutôt. Et donc, les jeunes, c'est plutôt TikTok, Instagram. Et c'est vrai que si vous y allez, vous allez voir le nombre de propositions qui sont faites concernant la sorcellerie. Et donc, les sorcières 2.0, comme les journalistes aiment les appeler, je vous donne un seul exemple, vous voyez si... Alors ça, c'est mondial, hein, bien sûr. Hein, si on cherche, vous savez, le hashtag Witchtok, alors c'est un mélange de witch, la sorcière et de TikTok, eh bien, en 2023, 20 milliards de vues. 20 milliards. Et pour voir un peu l'évolution, quand je vous disais tout à l'heure que c'est fort, qu'il y a une augmentation depuis la crise sanitaire, regardez, il y avait 2 milliards 400 millions en août de 2020, et c'est passé de 2 milliards à 20 milliards. Oui, c'est bon. Et donc, alors moi je suis une sorcière, plus spécialement, et elle me sert un peu de repère, si vous voulez, hein, qui s'appelle Sarah, qui a 21 ans aujourd'hui. Elle a posté ses premières vidéos sur la sorcellerie sur TikTok à 14 ans, et aujourd'hui elle est richissime. Alors vous voyez, elle se définit comme sorcière et païenne au panthéon grec. C'est très associé à la sorcellerie avec un retour du paganisme, dont nous allons parler tout à l'heure. Ça fait rêver beaucoup, beaucoup de jeunes. Elle a 1 400 000 abonnés. Donc, c'est des gens qui suivent régulièrement tout ce qu'elle poste. C'est une femme, tout ce qu'il y a de plus quelconque. Hein, là. 112 500 000 j'aime et 161 600 000 vues. Enfin, c'est fantastique. C'est une Française, je ne vous dis pas, celle qui parle en langue anglaise, etc. Et en 2021, elle avait 19 ans, elle a ouvert une boutique spirituelle dans le centre de Nice, très courue, hein, qui s'appelle les dryades françaises. Elle est considérée aujourd'hui comme une chef d'entreprise parmi les plus dynamiques en France. Et elle se définit comme sorcière. C'est juste un exemple. Alors, comment vivent-elles ? Ben, vous savez, elles ont gardé les vieux trucs, hein, elles continuent à faire des potions, et puis des rituels. Simplement, maintenant, ce sont des box. Et vous achetez des box qu'on vous envoie par la poste. Alors, je ne sais pas, vous avez un problème avec votre patron, ouf, on vous envoie une box avec tout ce qu'il faut, le rituel, comment, voilà, avec le mode d'emploi, évidemment, avec tout ce qu'il faut, les petites poupées avec les aiguilles, hein, pour faire tout ça. Vous pouvez vous abonner. C'est pas très très cher, vous voyez, enfin pas très cher, tout est relatif, hein. Une box c'est 35-40 euros, donc c'est pas non plus, donc ça quand même, les gens sont pris, alors c'est pour, je sais pas, un problème d'argent, un problème de travail, un petit ami qui est parti, tout ça, tac, et vous avez votre box toute prête à l'emploi. Maintenant, je vais un peu vite, hein. L'essor du chamanisme aujourd'hui est très fort, je pensais d'ailleurs que c'était un phénomène de ville. Et moi qui habite, vous savez, dans la campagne, hein, je suis plutôt dans la campagne, je suis tombé sur des jeunes gens qui pratiquaient avec le tambour ce qu'on appelle le néo-chamanisme. Alors qu'est-ce que c'est que le néo-chamanisme ? C'est une inculturation occidentale, une occidentalisation, si vous voulez, de pratiques très anciennes, religieuses, qu'on pratique à la fois en Mongolie, en Amazonie, en Sibérie, tout ça. Quel est le but de ce néo-chamanisme ? C'est de se mettre dans un état de transe. Vous voyez, un état de conscience modifiée, en utilisant essentiellement le son d'un tambour que l'on fait. Alors, il y a un lien avec les battements du cœur, enfin bref, c'est très. Certaines danses et aussi l'absorption de substances hallucinogènes, même si on dit que ce n'est pas vrai, j'en ai rencontré un certain nombre, beaucoup plus qu'on imagine. Et le but, c'est d'entrer, alors écoutez bien, parce que c'est là où on est dans du para-religieux, hein. Le but, c'est d'entrer en communication avec son animal totem ou un esprit du monde spirituel. Entrer, mais très concrètement, être en communication avec le monde invisible. Et il y en a une chamane française très connue qui s'appelle Corinne Sombrin, qui a écrit de nombreux livres. Elle est très connue parce qu'elle, elle travaille avec des scientifiques et elle veut mettre en évidence scientifiquement l'existence d'un monde spirituel. Donc avec ses esprits, donc elle pose des électrodes, etc. Enfin voilà. Avec une volonté de réconcilier la science occidentale avec les expériences religieuses les plus anciennes. Et il y a eu un film de cinéma, hein, qui est sorti, Un monde plus grand. Je ne sais pas s'il a eu un grand succès. Donc son rôle a été joué par Cécile de France. Vous voyez, donc avec quand même un moyen de se faire connaître largement. Maintenant, troisième domaine qui se développe aujourd'hui, c'est le spiritisme. Vous avez communication, âme des morts, esprit, les esprits, vous voyez un petit peu. Hein. Chose qui s'est beaucoup développée au 19e siècle, qui a eu un passage à vide au 20e siècle, enfin, moins net. Et aujourd'hui, ça revient vraiment à la mode. Et en particulier parce que les fabricants de jouets ont vu venir le coup. Parce que vous savez, il y a cette table qu'on appelle le Ouija ou le Ouija. C'est une table sur laquelle il y a les lettres qui sont écrites en cercle. Vous voyez un petit peu à droite là. On appelle un esprit. Et en posant son doigt soit sur un verre, soit sur une bulle comme ça, enfin sur cet objet, les esprits communiquent et communiquent certaines, on va dire, des messages qui viennent de l'au-delà. Donc c'est pas rare, quand on va chez des gens, moi ça m'est déjà arrivé, vous savez, dans des familles. Et donc le soir, enfin le samedi soir, ils ne savent pas quoi faire, il n'y a rien à la télé. Alors, on va dans la boîte, enfin, si vous voulez, dans l'armoire où il y a les jeux de société, vous avez le Monopoly, le risque et tout ça, puis vous avez la table de Ouija, et on appelle les esprits. Ça se fait, ça peut-être vous paraître bizarre, mais de plus en plus aujourd'hui, sans qu'il y ait jamais la moindre mise en garde. Et pourtant, vous savez, moi je suis passé par là, je peux vous dire que c'est extrêmement dangereux. Et chose aussi, vous savez, alors là, je démonte, hein, tant pis. Les éditions Bayard Press, hein, qui sont une édition qui propose des magazines d'éveil à la foi pour les curieux de Dieu, font un strapi, je bouquine, ont une petite revue qui s'appelle Julie, et sans qu'ils passent à mal, hein, Ils ont fait, je crois que c'était en 2021, si mes souvenirs sont bons, une séance proposée, comment faire une séance de spiritisme à des jeunes filles de 10 à 14 ans. Et donc, avec tout le mode d'emploi pour faire ça, lors d'une soirée spooky party, peut-être que vous avez entendu parler, ça marche bien chez les préadolescents, on va dire, c'est les soirées où on se fait peur. Hein, et on fait une séance de spiritisme pour se faire peur. Et enfin, dernier point, c'est beaucoup, alors là c'est plus complexe, je l'aborderai plus en détail tout à l'heure, le yoga et le magnétisme, qui sont un peu comme les bases, si vous voulez, vont avoir énormément de dérivés, qui vont être des portes ouvertes à des enseignements souvent ésotériques, ou des pratiques ésotériques, que ce soit le Reiki, la sophrologie, certains exercices de méditation, parce que s'il y a une méditation chrétienne, il y a aussi d'autres types de méditation, des exercices de souffle, etc. etc. Et donc, en réalité, ce que l'on voit, c'est que, en particulier dans le développement personnel, il y a une sorte d'hybridation entre un discours qui est psychologique, vous voyez, et puis tout à coup qui dérive dans un discours ésotérique ou religieux. Hein, on va commencer à vous dire, on vous donne des conseils finalement de bon sens, et puis tout à coup, on va vous parler de guide astro, d'entité supérieure, de force spirituelle. Et puis on va vous parler de karma, de vie antérieure, on va vous parler de la réincarnation. Et c'est beaucoup plus qu'on imagine. Hein. Ce n'est pas immédiat, hein. Ce n'est pas les premières séances. Ça se fait petit à petit. Ou alors des méthodes qui utilisent une sorte de pseudo-discours scientifique. Ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est tout ce qui est à base de physique quantique. Mais revue et corrigée. Hein. Bon. Et donc, c'est ce qu'on appelle les parasciences. On va parler de fréquences vibratoires, de bioénergie, de mémoire cellulaire, etc. Et tout ça, alors avec ces termes qui sont impressionnants, sont associés aussi à de vieux concepts ésotériques qui remontent dans le temps, comme l'aura, vous avez une sorte d'émanation de lumière qui est autour de nous, le magnétisme animal, j'en reparlerai, etc. Et donc, finalement, on retrouve ça en particulier dans la sophrologie, le Reiki, la pensée positive, la visualisation. Au début, on pense que ce sont des simples techniques de relaxation, mais finalement, quand on les creuse un peu, moi j'ai pris le temps de les creuser, eh bien on voit qu'il y a toute une vision philosophique, religieuse et ésotérique, mais qui se dévoile petit à petit. Et tout ça, toutes ces pratiques, pénètrent aujourd'hui tout doucement, je ne vais pas développer, mais vous le savez certainement, dans le milieu scolaire, auprès des enfants, mais aussi dans le milieu hospitalier. Vous voyez, là, ce n'est pas des gens qui appellent l'Esprit Saint, hein, ils ne sont pas en train de prier, hein, c'est du Reiki. Et j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir, qui a pratiqué le Reiki, parce que je travaille dans un milieu hospitalier, qui a pris des distances avec tout ça, puis il m'a dit, vous savez, on ne demande pas toujours l'avis à nos patients. On le fait et on leur impose les mains avant de les soigner sans qu'ils s'en rendent compte. Voyez, il faut faire attention. Hein. Et puis, bien sûr, dans les entreprises, où sous couvert de relaxation, finalement, on leur apprend à méditer et puis voilà, on les fait entrer. Et même dans l'église. Parce que vous savez que dans les églises, il y a des énergies puissantes. Combien de fois j'habite à côté d'une église qui est assez ancienne. Et on voit des gens qui viennent voilà, méditer sur un endroit particulier, parce que là, paraît-il, les énergies sont très puissantes. Et donc, il y a ce lien entre, parfois, yoga et la foi. Alors, troisième, comment on est passé, finalement, à toutes ces notions-là, à partir d'une religion, la religion catholique et protestante, qui étaient les deux grandes religions, un peu, qui maillaient notre pays et l'Europe, on va dire. D'abord, vous le savez bien, là je vais dire des choses que vous connaissez, aujourd'hui, quand on parle religion, ça n'a pas bonne presse. Pourquoi ? Parce que la religion est considérée comme une sorte d'enfermement dans des rites, dans des obligations religieuses, où il faut suivre des dogmes sans essayer de comprendre, et puis tout ça est imposé. Hein. C'est un peu, chez beaucoup de jeunes, hein, moi je vois que je rencontre, c'est un peu ça. Quand on leur parle de religion, on n'a pas envie d'être enfermé. Quoi, hein, on va être prisonnier, on n'a qu'à écouter et obéir. Quoi. Et donc on oppose beaucoup la religion à la spiritualité. Vous voyez, cette petite image m'avait été envoyée un jour par quelqu'un qui me connaissait et qui me disait, bah, voyez, vous êtes vous croyez, avec la religion, vous êtes enfermé dans votre bocal, dans vos dogmes, etc. Alors qu'avec la spiritualité, c'est grand large, on peut explorer par nous-mêmes, etc. Ils ne se rendent pas compte que c'est l'inverse, parce qu'ils sont tellement livrés eux-mêmes c'est eux qui tournent en rond en réalité, mais bon, peu importe. Mais vous voyez, l'opposition entre religion et spiritualité. Et donc, quand on parle de spiritualité aujourd'hui, on pense, la plupart des, enfin, en particulier les jeunes générations, mais pas que, pensent que finalement ça dépasse les religieux, c'est un au-delà des religions, qui est source d'expériences plus authentiques, plus profondes que l'expérience religieuse. Ils pensent qu'on va toujours plus loin. Ils accordent une grande importance au ressenti. Vous savez, il faut ressentir. L'intuition, l'imagination sont beaucoup plus valorisées que même le rationnel. Et une très grande place est accordée à l'émotionnel. Il y a énormément d'émotionnel. Ce qui fait que nous sommes passés de la foi religieuse qui est vécue en communauté, hein, ou en communauté d'église, hein, à finalement une spiritualité qui est d'abord un chemin individuel. Nous sommes dans une société profondément individualiste, et donc la spiritualité, c'est chacun va suivre sa voie, la voie qui lui plaît, selon ses envies, ses besoins, etc. Donc on passe de quelque chose de communautaire à bien plus individuel. Si on posait la question aux gens, on parle de spiritualité, pour beaucoup de gens, j'en ai fait l'expérience, les gens de la rue, on va dire, c'est associé à la religion, aux religions asiatiques. La spiritualité, par exemple chrétienne, on ne fait pas la relation immédiate. C'est asiatique. Mais est-ce vraiment asiatique? Ou est-ce américain? Alors là, il y a un petit livre que je vous recommande d'un frère jésuite. J'ai dit jésuite. Oh là là! Je ne sais pas sous quelle influence je suis, mais c'est effrayant. Non, dominicain, pardon. Hein. Oh la gaffe! Donc, il s'appelle Jean-Marie Gueguillette, hein, qui a écrit un petit livre il y a 2 ans, je crois, remarquable, si ça vous intéresse, qui montre très bien que la spiritualité n'est pas asiatique, ça ne vient pas de l'Asie, mais ça vient des États-Unis. Il dit ceci, « Ce mouvement n'est en rien nouveau, ses racines ne résident pas dans les sagesses asiatiques. La spiritualité telle qu'on la conçoit en Europe est héritière directe de celle qui s'est développée il y a 3 siècles aux États-Unis. Au lieu de nous orientaliser, nous nous américanisons. » Effectivement, il ne faut pas imaginer, même si ça, les termes, vous voyez, sont souvent asiatiques, en réalité, ça vient des États-Unis. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les racines de la spiritualité telle qu'on l'entend aujourd'hui plongent finalement dans le néopentecôtisme américain. Pourquoi le néopentecôtisme ? Parce que là, dans cette foi néopentecôtiste, les relations du croyant avec Dieu ne passe pas par des intermédiaires. Pas besoin d'église, pas besoin de sacrement, pas besoin de clergé, etc. Et c'est dans un rapport direct avec Dieu. Donc, dans une communication finalement individuelle, chacun peut entrer en communication avec Dieu. Et quand c'est arrivé en Europe, comme déjà dans les années 60, si vous voulez, la religion chrétienne était un peu considérée comme un peu ancienne et qu'on était très marqué dans les années 60 déjà par l'Asie, pour des raisons dont je vais vous dire dans un instant, eh bien finalement, cette expérience directe de Dieu, on l'a plutôt associée aux religions asiatiques où, par la pratique de la méditation en particulier, on apprend à découvrir son soi divin. Mais finalement, c'est le même mouvement, sauf que ça s'est orientalisé dans les années 60. Alors, c'est ce que les journalistes ont appelé le phénomène des nouvelles spiritualités. Alors, il faut distinguer. Il y a 3 sortes de nouvelles spiritualités. D'abord, il y a les chercheurs du divin. Je dis bien divin, mais pas de Dieu, hein, forcément. Ce qu'on appelle les alter-croyants. Eux, ce sont des gens qui veulent sortir du matérialisme, mais ils ne veulent pas entrer dans une religion, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ne veulent pas être enfermés. Ils désirent finalement trouver un nouveau sacré, mais fonder aussi des nouveaux rites. Mais chacun va fabriquer sa religion lui-même, avec des bouts de morceaux de christianisme, de judaïsme, de bouddhisme, etc. Et l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de son intuition, de ses désirs, et apprendre à communiquer avec son Dieu intérieur. Le deuxième, ce sont plutôt des chercheurs de soi. Ce n'est pas tellement Dieu qui cherche, mais soi. Une volonté de se sortir de la banalité de la vie quotidienne. Mais il n'y a pas de recherche de Dieu. C'est d'abord une quête de bien-être, de relaxation, d'équilibre, d'harmonie. Alors on parle de divinité et tout ça, mais ce n'est pas de Dieu. c'est d'abord la recherche de soi-même. Et Dieu et le moi profond, finalement, ça ne fait plus qu'un. Et enfin, peut-être plus moins important, c'est ce qu'on appelle les néo-païens, mais alors c'est une maelstrom de croyances anciennes. Il y a une certaine volonté de retrouver les religions d'avant le christianisme, les vieilles religions païennes, les mythologies, les mythes nordiques, vous savez, Thor, Odin, etc. Les religions également, druidisme, celtisme. Alors ça, par exemple, je vais assez souvent en Bretagne, je suis souvent, et ça, on en parle beaucoup. Par exemple, le druidisme, c'est quelque chose qui se développe. Mais vous voyez, c'est dire, finalement, la religion chrétienne s'est imposée, enfin, finalement, a chassé la vraie religion, et ces vraies religions, ce sont ces religions païennes, quoi. Et c'est souvent, d'ailleurs, associé à des mouvements politiques de ce qu'on appelle la nouvelle droite. Enfin, bref. Alors, nouvelle spiritualité, en réalité, il y a une chose, c'est qu'elles sont ni nouvelles, et elles sont pas non plus vraiment des spiritualités. Si on les creuse un peu, c'est d'abord un vaste syncrétisme, voyez, un mélange entre certaines religions orientales, bouddhisme, hindouisme, enfin, vu et corrigé à la mode occidentale, hein, bon, dans lequel on a introduit des vieux principes ésotériques qui remontent très loin. Hein. Principes ésotériques, ça remonte, on va dire, au 2e, 3e siècle, au moment de la gnose, au moment de l'hermétisme, enfin bref, et où on pense que tout est en correspondance, le microcosme, etc. Donc finalement, tout ce qui paraît pourtant moderne, qui parfois est présenté avec un vernis scientifique, c'est en réalité loin d'être nouveau, c'est très ancien. Et les nouvelles spiritualités aujourd'hui sont au carrefour de plusieurs influences. Avant, je veux dire, même avec le Nouvel Âge, il y avait des groupes, si vous voulez, qui étaient vraiment sectorisés, et ce qui était spiritualité était à part. Maintenant, c'est mêlé à plusieurs influences. Par exemple, le féminisme flirte beaucoup avec cet ésotérisme. Alors, on parle beaucoup de féminin sacré. Je ne développe pas parce que vous en avez certainement entendu. La sorcière, qui est considérée comme la première des féministes de l'histoire. Hein, et donc, on relie un peu l'histoire en disant mais les sorcières, elles ont été persécutées parce que c'était des féministes. Une autre chose, c'est l'écologie également. L'écologie, aujourd'hui, très importante dans notre société, est aussi... j'allais dire, vous voyez, quelque chose qui est très recherché par tout ce qui est l'ésotérisme, les éco-spirituels. Ils veulent reconnecter avec la nature, mais la nature est considérée comme un être vivant, sacré, vous savez, c'est la terre Gaïa, hein, voilà, avec des mouvements, l'écologie radicale, etc., et aussi ce qu'on appelle la sorcellerie verte. Et puis enfin, le développement personnel. Vous voyez, dans cette image-là, c'est un livre qui a un gros succès, « Le yoga des sorcières, découvrir le féminin sacré qui est en nous ». Alors, vous avez tout. Hein. Vous avez du féminisme, vous avez le yoga, vous avez la sorcellerie. Vous voyez comment, finalement, tout ça est très lié. Ou initiation au mentalisme, métaphysique, au développement personnel et à l'ésotérisme. Vous voyez, ce ne sont pas des choses qui sont strictement pures dans certains domaines, mais ce sont des mélanges. Enfin, dernier point, ça va, vous tenez le coup ? Moi aussi. Foi chrétienne et ésotérisme. Alors, l'occultisme et l'ésotérisme, alors ça c'est l'historien des religions hein, qui parle, on le retrouve toujours se développant quand il y a une crise religieuse. Quand l'Église est en crise ou quand il y a une crise religieuse, ça fait tout de suite monter, si vous voulez, la magie, l'ésotérisme, la voyance, etc. Donc ce n'est pas la première fois que l'Église est confrontée à ce problème. C'est la bonne nouvelle. Sauf qu'il y a un développement peut-être qui est plus massif qu'autrefois. Mais c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Alors, ésotérisme occultisme, juste une petite définition. L'ésotérisme, si vous voulez, c'est un terme qui était fondé au 19e siècle, hein, enfin peu importe, repose sur une vision du monde, de l'homme, de la divinité, qui est inspirée des pensées païennes, en particulier la philosophie néoplatonicienne. Je ne vous développe pas tout ça, c'est pour que vous compreniez juste. Que l'ésotérisme, ça fait allusion à une connaissance secrète qui est bien avant le christianisme, qui est présente dans différentes religions, mais de manière, si vous voulez, éparse. Et il faut retrouver cette connaissance d'origine qui, finalement, est réservée, que l'on retrouve d'initiation en initiation. Alors, il y a beaucoup de groupes ésotériques qui sont également associés à des sociétés initiatiques. Alors que l'occultisme, c'est ce qui se développe le plus dans notre monde. et chez nous. C'est-à-dire, ce sont la mise en pratique, si vous voulez, de ces connaissances. Et ce sont des choses plus pratico-pratiques, si je puis dire. Vous voyez, c'est la magie, la divination, l'astrologie, le spiritisme, hein, etc. Alors, dans les pratiques occultes, là, je vais surtout m'intéresser à l'occultisme, parce que c'est ce qui nous entoure le plus. Finalement, il y a deux domaines. Soit les pratiques occultes visent une guérison, recherche de bien-être. Vous savez, c'est les coupeurs de feu, les conjurations magiques, les soins énergétiques, etc. Donc ça, c'est plutôt dans la guérison. Ou alors, c'est de la connaissance, de la divination. La voyance, cartes, boules de cristal, pendules, l'astrologie, le spiritisme, on interroge les esprits, la médiumnité, entrer en contact avec le monde invisible. Parfois, les deux domaines, d'ailleurs, se mêlent. Alors, quand on regarde bien tout ce qui existe aujourd'hui, et Dieu sait qu'il y en a, hein, impossible de faire la liste, hein, on se rend compte qu'on voit qu'il y a trois grandes racines. Le premier, c'est le yoga, avec toute la place du corps et les états modifiés de conscience, je vais expliquer. La deuxième chose, c'est le magnétisme et toutes les notions d'énergie. Je suis sûr que vous êtes tous en train de parler de ces énergies-là. Voilà. Et puis, le troisième domaine, c'est la magie, guérison et divination. Alors d'abord, une première racine vient du yoga, avec l'importance qui est accordée au corps et les états modifiés de conscience. Alors, on part d'un yoga qui est indien jusqu'au yoga occidental, mais il faut un petit peu d'histoire. D'abord, il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, en Occident, on ne connaissait pas les religions orientales. C'était les religions à convertir, en gros, hein. Ce qui va changer, c'est une certaine société théosophie, vous en avez peut-être entendu parler, très importante, qui est issue du spiritisme, proche de la franc-maçonnerie, qui a été fondée à New York en 1875 par une certaine Helena Blavatsky et le colonel Olcott, bon, peu importe, qui ont voulu proposer une doctrine syncrétique qui amalgame à la fois l'ésotérisme occidental, toute cette tradition, aussi un peu de christianisme et revu et corrigé, bien sûr, avec le bouddhisme, en particulier le bouddhisme tibétain et l'hindouisme. Leur but, faire trouver une religion qui englobe toutes les autres religions, la religion primordiale, si vous voulez. Et c'est la société théosophie, très clairement, qui va populariser toutes les religions asiatiques en Occident, en commençant par le yoga. Très clairement, historiquement, c'est en 1893 que tout commence, où la société théosophie va organiser à Chicago un parlement mondial des religions. Et c'est la première fois qu'on faisait venir un hindou, un yogi, hein, qui s'appelle Swami Vivekananda, très important. Il ne faut pas oublier que l'Inde est donc sous domination anglaise, donc il parle anglais, ce qui a permis de favoriser la connaissance de l'hindouisme. Et donc il est venu, et c'est la première fois qu'il a parlé de l'hindouisme et du yoga, et que ça a eu un succès immense. Alors, qu'est-ce que le yoga indien exactement? En deux mots, hein, le yoga indien, ce n'est pas du tout des exercices, si vous voulez, de relaxation. C'est d'abord une voie religieuse, il ne faut pas l'oublier, dont le but ultime est de parvenir à une illumination par la méditation. Vous voyez, il n'y a pas d'exercice corporel, hein, à l'origine du yoga. Et l'éveil, c'est un trait d'union entre le dieu intérieur, qu'on appelle l'atman, une sorte d'âme, si vous voulez, qui doit s'absorber dans le grand tout, l'absolu qu'on appelle le Brahman, et se libérer de la réincarnation, du cycle de la réincarnation. Donc la voie du yoga passe par différentes étapes, et la dernière s'appelle le samadhi, durant laquelle cette étape, l'esprit du yogi va réaliser la réalité ultime. Ça, c'est en Inde, ça, c'est l'origine. En 1924, il y a un certain Tirumalai Krishnamacharya, qui, lui, a dit, mais finalement, qu'est-ce qui intéressait les Occidentaux? C'est surtout le corps. Ils sont à la recherche de quelque chose, de la détente, etc. Et il a fait un choix parmi toutes les voies du yoga, et il va en prendre un qui s'appelle le Hatha Yoga, qui s'appelle le yoga de l'effort. Et c'est dans ce yoga-là qu'il y a des exercices corporels. Et il va faire une sorte de mixage entre le Hatha Yoga, mais aussi la gymnastique suédoise et le culturisme. Et il va fonder des choses, mais lui-même, des positions qui n'existent pas dans le yoga, qu'il a fondées lui-même, la salutation au soleil, la position de la cigogne, etc. Bon, voyez. Donc c'est finalement, dès que le yoga s'exporte, nous dit Marie Corr, qui est une spécialiste de l'histoire du yoga, Il est marketé pour les Occidentaux, on le rend plus physique, on gomme les aspects religieux en lui donnant une palliative traditionnelle, on en fait une source de bienfaits, voire une alternative à la médecine. Si on s'arrête là, le yoga, c'est effectivement une gymnastique, mais la question auquel on ne va pas répondre là maintenant, c'est est-ce qu'on peut utiliser une méthode religieuse pour en faire une simple gymnastique ? Est-ce que c'est parce que ça n'a pas été fait pour ça ? Tous les postures du yoga ont pour but d'obtenir le samadhi. Bon. En tout cas, on constate qu'il y a une évolution majeure à partir des années 60, parce que beaucoup de yogis indiens, vous savez, c'est le moment où on commence à voyager, viennent aux États-Unis d'abord, et puis en France. Mais ils disent, mais qu'est-ce que vous avez fait du yoga ? Vous nous avez fait une simple gymnastique. Ils disent, mais ce n'est pas ça le yoga. Et ils redonnent un enseignement sur le yoga pour rappeler ce que c'est. Et donc, ils remettent en avant la place de la méditation, qu'on appelle le dhyana. Et c'est comme ça qu'on commence à voir à partir des années 60, vous savez, en position du lotus, etc. Vous voyez, et à partir de là, c'est la méditation qui est revue, qui est remise en... Et tout doucement, le yoga passe à une nouvelle, j'allais dire, une transition où il est vu à un certain stade, à un certain niveau, je ne dis pas dès le départ, comme un chemin de transformation spirituelle. Et donc, très vite, le yoga va devenir une expérience spirituelle qui va aussi s'inspirer, je passe du tantrisme, le tantrisme c'est une voie ésotérique à la fois hindouiste et bouddhiste, et c'est là que, vous savez, on va commencer à introduire des exercices de souffle, et puis faire l'expérience, vous avez certainement tous entendu parler, ouvrir les chakras, vous savez, des sortes de centres énergétiques, de faire l'expérience de la kundalini, une sorte de puissance qui doit monter de la base du dos jusqu'à la tête, dans le but de parvenir à l'illumination, un état de plénitude, de bien-être physique et psychologique, en réalité, d'essayer de se mettre dans un état de transe pour s'ouvrir au monde invisible. Et le dernier aspect qui est très important, parce que c'est peut-être celui qui met le plus facilement en transe, ce sont les exercices de souffle. Moi, je sais que quand j'avais appris, vous savez, j'ai fait du spiritisme, donc j'ai appris la médiumnité, et je me souviens l'importance à la fois de la méditation, mais aussi les exercices de souffle, parce qu'il y a une sorte d'hyperventilation du cerveau qui, pour certaines personnes, pas toutes, hein, évidemment, les mettent plus facilement en relation avec le monde invisible, hein, une sorte d'état modifié de conscience. Et donc, là, je voudrais m'appuyer simplement sur le père Verlaine, ça peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est quelqu'un qui connaît bien ce domaine, parce qu'avant de devenir prêtre, il est parti, c'est un scientifique, hein, qui est parti en Inde, qui a fait toutes ces expériences-là, qui a ouvert des ashrams, qui s'est converti. Et juste des petites choses, dans un livre qui est difficile à lire, mais qui est intéressant, L'expérience interdite, il dit « Le yoga conduit à un état de fusion cosmique, induisant des états modifiés de conscience similaires à ceux qu'on peut obtenir par la transe ou par des rites initiatiques. » Il dit dans d'autres, vous savez, comme dans le vaudou, hein, vous savez, par exemple. « Rien d'étonnant dès lors que ceux qui pratiquent un certain temps le yoga ou autres techniques analogues, parce que je vous dis, après, ce ne sont que des dérivés, hein, finalement, se découvrent dotés de pouvoirs préternaturels. » Qu'est-ce que c'est que ces pouvoirs préternaturels ? Ben, vous savez, c'est des dons occultes, si vous voulez, voyez, des certains pouvoirs sur la matière, sur voilà. Bon. Et le danger, c'est qu'un état modifié de conscience, provoqué par des techniques longuement éprouvées par les yogis, parce que les yogis disent, mais vous prenez des techniques que vous apprenez en 10 minutes sur Internet. Simplement, il faut parfois des dizaines d'années pour les apprendre parce qu'elles ne sont pas neutres. Et elles peuvent ouvrir, elles sont puissantes, quoi. Et donc, le risque, évidemment, dit le père Verlaine, c'est que ça peut provoquer des phénomènes d'emprise démoniaque. Et vous savez, il y a peut-être des exorcistes parmi nous, mais très nombreux sont les exorcistes qui disent que il y a des gens qui viennent, alors ils ont commencé par du yoga, je ne dis pas la détente, vous voyez, je ne suis pas en train... si on s'arrête là, ça pose une autre question, mais c'est quand on veut aller plus loin, tout à coup, pouf, on sent qu'on ne maîtrise plus très bien les choses, on sent des choses bizarres, il se passe des choses bizarres en nous, dans la maison, etc. Quoi. Aussi, finalement, cette méditation, ça c'est un aspect aussi important, vous voyez la grosse différence avec le christianisme, c'est que la méditation, telle qu'on l'entend dans le, par exemple dans le yoga et tous ses dérivés, c'est une enstase, c'est-à-dire c'est une plongée en soi-même, finalement pour trouver son moi profond et son Dieu intérieur. C'est très différent de la méditation chrétienne, une prière qui est une extase qui s'ouvre sur l'autre, qui s'ouvre sur le tout autre, le transcendant, le Dieu d'amour. Vous voyez toute la différence. Et c'est souvent avec toutes ces techniques, finalement, on est plongé vers son nombril. Hein. Alors on plonge, et on appelle souvent Dieu qui n'est que son grand vide intérieur. Hein. Bon. Et donc le yoga aussi, souvent, disent bah, c'est une recherche d'harmonie. Mais le danger, c'est que ça peut venir, et ça on le voit souvent, comme une sorte d'absolu. Alors il va falloir que je termine rapidement, je crois. On voit que finalement, ça empêche finalement de s'ouvrir totalement sur l'autre, et ça peut devenir un absolu. Alors je vais, j'avais plein de choses à vous dire, mais je vais le passer. Tant pis pour vous, mais c'est pas grave. Je vous, si une petite chose, juste un point. Beaucoup avec la, c'est le temps. Je suis trop bavard. Vous savez, le magnétisme, c'est la croyance qu'il y a des énergies là. Alors ça remonte très loin, ces histoires d'énergie. C'est parti d'un certain Anton Mesmer qui disait que le monde était plongé dans un monde énergétique. Il n'y a pas de Dieu créateur. Hein. Nous sommes un monde qui est parti de l'un et qui s'est divisé, puis qu'il faut que tout est en relation, les planètes, le corps humain, etc. Et avec l'imposition des mains. Et ça, je voudrais quand même dire un petit peu, attention à l'imposition des mains, parce qu'il faut le rappeler que c'est un geste religieux, très ancien, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, et bien sûr dans le Nouveau Testament. Jésus bénit les enfants, bénit les malades, et regardez dans l'Église, hein, l'épiclèse au moment de la consécration, et les bénédictions, etc. C'est un geste religieux qu'on a détourné. Mais qu'appelle-t-on lorsqu'on fait ces impositions de mains ? Il ne faut pas oublier que c'est un signe du royaume. Hein. Proclamez l'évangile à toute la création. Voici des signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils imposeront les mains et aux malades, et les malades s'en trouveront bien. C'est un signe du royaume. Bon, je vous aurais montré que dans le Reiki, il y a ça. Je passe aussi, excusez-moi, parce que la magie, il faut conclure. Hein, c'est...
On retrouve tout ça dans votre livre, je pense.
Oh oui, et plus. Non, je voudrais juste arriver à la conclusion. Oui, je vais essayer de retrouver. Oui, alors, là-dessus, la Bible et l'Église a toujours été très claires. Il ne faut pas y toucher. Une citation parmi d'autres, on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, pratique la divination, l'incantation ou la magie. Personne qui use le charme, interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination avec Dieu. Abomination, c'est un vieux terme qui veut dire on n'est pas dans le plan de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Et dans le catéchisme, on nous le rappelle, toutes les pratiques de magie, de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, même pour la santé, sont contraires aux vertus de religion. Alors qu'est-ce qu'on appelle la vertu de religion ? Qu'est-ce que c'est que le mot religion ? Ça veut dire qu'on est relié à Dieu. Hein, la religion relie à Dieu. La magie, c'est l'inverse. C'est un péché d'idolâtrie, finalement, parce qu'elle détourne l'homme de Dieu, où on préfère placer sa confiance dans des forces occultes, dans des énergies, etc., plutôt que de se mettre dans les mains de Dieu et de s'abandonner à la providence divine. Donc, la magie est une offense à Dieu. Voilà, on va arrêter là. Merci.
Il faut garder 5 minutes si on veut pouvoir ouvrir nos chakras avant de nous séparer. Non, merci beaucoup, Père Jean-Christophe. Et ce que vous racontez m'évoquait une chose, c'est dans la ville où je vis, il y a un local féministe. Et pendant longtemps, il y a eu une banderole devant laquelle je passais, qui était écrite, qui écrivait « Nous sommes les descendantes des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. »
À brûler,
oui. J'allais leur dire « Mais j'ai brûlé personne. » Est-ce que, comme on a 5 minutes, est-ce qu'on peut avoir une question ?
Je vous dis, on pourra se retrouver à midi, hein, si vraiment il y a des... Après, je ne pourrais peut-être pas parler à tout le monde, mais...
Merci, Père. On aurait pu écouter 2 heures. Il faudra prévoir une conférence de 2 heures. Vous n'avez pas parlé de l'hypnose ?
Non, parce que je ne pouvais pas parler de tout. Alors, en un mot... L'hypnose en soi, il y a deux hypnoses, on va dire. Il y a une hypnose médicale, en particulier la méthode ericksonienne et tout ça. Le vrai problème, c'est la question, est-ce qu'il est bon ? Parce que finalement, quel est le but de l'hypnose ? Se mettre dans un état de réception à des messages que l'on envoie au cerveau. Et est-ce qu'il est bon que l'hypnose puisse finalement se faire dicter notre conduite par d'autres personnes ? Enfin, que finalement, nous perdions un peu de notre liberté intérieure. Et je pense que ça, c'est d'ailleurs, derrière tout ça, c'est beaucoup la question de la liberté intérieure. Donc ça, c'est l'hypnose médicale et tout ça. Moi, je le ferai avec beaucoup de précautions, parce que je pense qu'on doit être maître de sa vie, et qu'une personne intervienne et glisse des messages, fût-ce pour arrêter de fumer ou gérer sa douleur, c'est bien, mais ça pose quand même une question. Et après, il y a une hypnose qu'on utilise beaucoup aussi dans les spectacles, etc., qui finalement a pour but... Alors, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, donc on est plus ou moins sensibles, et en particulier, je pense, aux hypersensibles, il y a une sorte d'hypersensible qu'on appelle médiumnique. Vous savez, c'est ces gens, c'est à peu près 10% de tous les hypersensibles qui sentent des choses intuitivement, ils n'ont pas cherché, sont des gens qui vont avoir une sorte d'hypersensibilité, qui vont sentir des vraies éponges, qui vont deviner des choses qu'ils ne peuvent pas connaître. Ces gens-là, j'ai pu remarquer que s'ils font l'hypnose tout de suite, ils sont ouverts sur le monde invisible et ils sont tout de suite, j'allais dire, il y a des phénomènes d'emprise démoniaque qui se créent tout de suite. Alors surtout, si vous faites partie des gens, vous voyez, qui ont une sorte de, naturellement, hein, une sorte d'ouverture, etc., ne faites pas d'hypnose parce que là, ça va tout de suite, ça va vous ouvrir sur le monde. Et là, j'ai de très, très nombreux exemples et il faut faire attention. Je travaille avec une psychothérapeute, hypnothérapeute. Depuis qu'elle me connaît, elle n'utilise plus de l'hypnothérapie, même dans un cadre, parce qu'elle dit, c'est vrai que ce sont des états modifiés de conscience, on n'est jamais très loin de la transe.
Merci, Patrick. Dernière question.
Oui, je me demandais où est-ce que vous placiez la cabale.
Je vais essayer de répondre aux deux très rapidement. La cabale, ça fait partie, c'est l'ésotérisme à l'origine du judaïsme. Comme il y a un ésotérisme chrétien, il y a un ésotérisme judaïque. C'est-à-dire que c'est une lecture de la Bible symbolique où on cherche les messages. On pense que c'est parti de cette idée-là. C'est que quand il y a eu la révélation à Moïse, des 10 commandements, Dieu aurait donné un enseignement supplémentaire à Moïse, un enseignement secret qui aurait été caché dans la Bible. Et c'est ça qu'on appelle la Kabbale. Par la suite, la Kabbale a été christianisée. Il y a une Kabbale chrétienne. Donc au moment de la Renaissance, et aujourd'hui ça fait partie de toutes ces initiations avec la gnose, etc. Donc la cabale fait partie, j'allais dire, de toutes ces recherches ésotériques qui existent. Voilà. Et après, une question sur les sourciers. Hein. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite. Moi, je fais une différence entre la rhabdomancie, vous savez, c'est-à-dire le sourcier qui va chercher de l'eau avec des baguettes, bon... je trouve ça bizarre. Mais dès qu'on utilise le pendule, là, je me méfie. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai aucune idée si ça... Ça ne me paraît pas... pour l'instant, je n'ai pas remarqué de danger particulier pour ceux qui cherchent de l'eau. Peut-être que... Bon. Mais qui donne cette information? Et surtout, qui donne les informations supplémentaires? J'étais avec un sourcier qui a voulu me montrer que ça marchait. Bon, ça se soulève. Je dirais... Moi, je suis sceptique, hein. Je ne vous cache pas, même si c'est un prêtre qui est à l'origine de la radiesthésie, je suis sceptique. Mais là où j'étais sceptique, c'est que la question, c'est de dire à combien de mètres. Et là, il a sorti son pendule, et c'est le pendule qui lui a donné le nombre de mètres. Alors, en plus, c'est bien précis. Et je lui dis, si c'est en Angleterre, alors il parle en pouces. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une information qui n'est pas une information, j'allais dire, c'est presque une information intelligente. Je veux dire, la nature elle-même, elle ne va pas donner ce genre d'informations. Alors, moi, je dirais attention parce que ça peut être une porte ouverte. Le pendule est un des moyens de communication qu'on retrouve chez les voyants. Moi-même, je suis entré dans l'ésotérisme par le pendule, mais je ne cherchais pas des sources. Donc, je ferais quand même une petite différence, vous voyez, entre le sourcier, même si je ne sais pas d'où ça vient, mais laissons une porte ouverte. Qu'il peut y avoir des choses qu'on ne connaît pas, mais attention de ne pas vouloir aller plus loin et finalement que ça soit une porte ouverte après à une communication qui, elle, serait plus occulte et qui pourrait finalement nous entraîner dans un monde qui n'est pas celui de Dieu, en tout cas.
Bien, je crois qu'on peut vous applaudir. Je suis désolé pour les questions.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver le père Jean-Christophe sous les tentes dédicacé son livre « Libère-nous du mal » publié chez Arthège.